chapitre 11 et au verset 5. On va lire ensemble les versets 5 et 6. Et pendant que vous trouvez ces endroits, je vous invite, si vous avez votre Bible avec vous, à tourner à ces endroits-là. On va débuter ici ce matin, pendant que vous y arrivez, tout simplement faire un petit retour, récapitulation. On est dans cette série qui est quoi? L'esprit d'une église. De voir de quel esprit, en tant qu'église, nous devons être motivés, nous devons être animés. Et bien entendu, on sait que l'esprit de l'église, ultimement, c'est qui? C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Mais le terme ici, esprit, veut davantage signifier justement la motivation. Amen. Ce qui nous propulse, ce qui nous pousse à aller vers l'avant, ce qui, en tant qu'église, doit nous motiver. La semaine dernière, on a vu qu'une des choses qui doit absolument nous motiver, absolument nous propulser vers l'avant, nous motiver, c'est quoi? C'est la compassion, c'est l'amour. Et aujourd'hui, on veut voir quoi? On veut voir l'esprit de foi. Qu'en tant qu'Église, on ne peut pas passer à côté de cet esprit de foi. Et quelle meilleure manière, d'introduire justement ce thème que ce que nous avons fait ce matin. Amen. Est-ce que je vais vous dire ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, il s'est passé à une équipe de louanges qui nous a apporté des chants à propos de la foi. Amen. Déjà, le Seigneur a ouvert le bal, si on veut, en parlant de la foi. Mais je vous mets dans le contexte. Je dis devant Dieu et devant témoins. C'est Céline ici qui se charge de préparer la liste de chants. Et ce que Céline fait, principalement, c'est ce qu'elle fait, elle prie. Amen. Et moi et Céline, on a une entente, dans le sens que moi, je ne lui dis pas ce que je vais prêcher, et moi, je ne veux pas savoir ce qu'elle va chanter. OK? Devant témoin, je le dis là. N'est-ce pas? Que quand par erreur, elle m'envoie sa liste de chants, je ne l'ouvre pas. Parce que je ne veux pas être influencé par qu'est-ce qu'elle va apporter. Et la même chose pour elle. Amen. Donc, on a quoi ici? On a quelqu'un qui apporte une équipe tout entière qui nous apporte dans la louange, dans la foi. On a le Saint-Esprit qui met dans le cœur d'un frère de prier, de faire justement la prière de foi pour les malades. Et finalement, on boucle la boucle. Ben, je dis on boucle la boucle, on ne sait pas qu'est-ce qui reste ce matin. Amen, ce que le Saint-Esprit a prévu. Mais on continue plutôt avec un message sur l'esprit de foi. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit saisir ce matin. La Bible nous dit de ne prendre aucune déposition, sauf sur la déposition de deux ou trois témoins. On est rendu au troisième témoin de la foi ce matin. Je pense que l'Esprit veut nous dire quelque chose. Donc, ouvrez, je vous invite fortement à ouvrir vos cœurs, amen, à recevoir la parole que le Seigneur a à nous dire ce matin. Amen. Et à oser justement écouter ces choses que le Saint-Esprit va nous dire, à l'écouter d'une nouvelle perspective. Justement, d'une perspective de foi, et non seulement sur ce que vous avez toujours entendu ou toujours cru. Amen. Donc, Hébreux 11, chapitre 11, pardon, versets 5 et 6, la parole de Dieu nous dit, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà quoi? Que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ou d'autres versions, on va nous dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, verset 6, on le relit. « Or, sans la foi, il est quoi? Impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » De lui être agréable, dans le sens de lui plaire. OK? Pourquoi est-ce que je veux faire la distinction ici? Parce que c'est très important. Pas dans le sens qu'il ne t'aime pas, quelqu'un. Je peux aimer mes enfants, mais ils peuvent faire quelque chose qui ne me plaît pas. S'ils font quelque chose qui ne m'est pas agréable ou quelque chose qui ne me plaît pas, cela ne change pas automatiquement le fait que j'aime quand même mon enfant. Amen. Donc, déjà, d'entrée de jeu ici, je veux enlever la pensée de condamnation de si j'ai pas la foi, de si, depuis tant d'années, j'attends de recevoir telle chose. D'abord, ben, Dieu m'aime pas. Non. Okay? Mais plutôt, oui, la foi est une attitude qui plaît à Dieu. Et même la foi est un endroit où Dieu veut nous voir vivre. Mon juste vivra par la foi. On dit que la foi, c'est la monnaie d'échange du royaume. Dans le sens que tout ce qu'on reçoit dans le royaume de Dieu, on le reçoit par la foi. Je vais aller encore plus loin. Non seulement la foi, c'est la monnaie d'échange, mais la foi, c'est carrément l'air que l'on respire dans le royaume. Mon juste vivra par la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne vis pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que autant qu'on a été habitué dans le domaine physique de faire appel à nos cinq sens. Nos cinq sens sont là pour notre corps, nos cinq sens sont là pour nous aider et même à vivre dans ce monde-là. Je suis content d'avoir la vue, je suis content d'avoir lui, je suis content de sentir des choses. Et même quand il fait trop froid, si je ne sentais pas qu'il ferait froid, je ne m'habillerais pas en conséquence et là je m'exposerais à toutes sortes de choses. Et même nos cinq sens sont importants. Mais autant que nos cinq sens sont importants pour notre naturel, par l'esprit, dans le royaume de Dieu, il faut développer cette habileté-là par la foi. Amen. Et le défi pour nous, qui ne sommes pas de ce monde, mais qui vivons dans ce monde, c'est justement de faire la part des choses, de dire quand est-ce que j'écoute plus mes cinq sens. Et si on peut oser dire, je me fie au sixième, hein, qui est la foi. Parce que Jésus lui-même, ok, on s'entend, Jésus lui-même quoi? Jésus lui-même marchait, Jésus lui-même était fatigué, Jésus lui-même, on l'a vu la semaine dernière, avait quoi? Des émotions. Les émotions en soi, les sentiments en soi, c'est pas mauvais. N'est-ce pas? Jésus regardait la foule et qu'est-ce que ça faisait? Ça créait en lui. Jésus regardait la foule, ému de compassion, et cette compassion-là faisait en sorte que, boum, il guérissait les malades, il les nourrissait, il prenait soin des gens qui avaient besoin. La Bible nous dit Jésus dormait, Jésus était fatigué, Jésus pleura. Mais le problème, c'est quoi avec les cinq sens? Le problème, c'est qui est-ce qu'ils vont servir? Est-ce que vos sens vont servir la chair, l'homme naturel, ou l'esprit? Hein? Okay. Ou est-ce que nos émotions, vers quoi est-ce qu'on va les diriger? Vers ce qui nous frappe les yeux, ou vers ce que la parole de Dieu nous dit? C'est là où ce que Jésus a tourné sa compassion vers les gens. Amen. Et on est tellement habitué de vivre par nos cinq sens que si je m'en vais sur Accéder, que je regarde à mon compte de banque et que je vois que je suis dans le moins, mon réflexe, c'est quoi? Mon réflexe, c'est de paniquer. Mon réflexe, c'est de commencer à faire toutes sortes de plans. Aller chercher un deuxième ou un troisième travail. Couper ci, couper ça. Et une fois que je vais avoir fait tout ça, peut-être des semaines après, des mois après, je vais venir à l'église, je vais me mettre à genoux et je vais dire, Dieu, fais quelque chose. Mais les réflexes de celui ou celle qui marche par la foi, et le contraire. Il commence à genoux. Et il ne dit pas Dieu fait quelque chose. Et il dit, Dieu, je sais que tu as déjà fait quelque chose. Donc, peu importe ce que les circonstances me montrent maintenant, hein, je décide de vivre et de déclarer ce que toi, tu déclares. Parce que notre combat, mes amis, il est là. Quelle parole croyez-vous donc? Ça se résume à ça. Ça se résume à qui est-ce que vous allez croire le plus? Et la réalité, c'est que la réponse va être où? La réponse va être dans vos paroles et dans vos actions. Ultimement, c'est là que ça va se trouver. Hein? Et je sais que juste ça, ouf! Mais qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire quoi déjà? Qu'il existe. Il existe comment? Parce que beaucoup de gens croient que Dieu existe, qu'il y a une force supérieure, qu'il y a quelque chose là-haut qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, mais je crois bien que oui. Est-ce que c'est ça, croire à l'existence de Dieu? Ou c'est croire non seulement à l'existence de Dieu, mais à qui est Dieu? Croire à l'existence de Dieu, croire à la fidélité de Dieu, croire à la foi de Dieu, croire à la grâce de Dieu, croire à la miséricorde de Dieu, croire au pardon de Dieu, croire que Dieu existe, c'est que croire que Dieu existe en toutes ces choses-là. Amen. C'est la première chose qu'on doit faire. Parce que si tu ne crois pas que Dieu, si tu crois que Dieu existe, mais que tu ne crois pas que Dieu d'amour existe, t'es bloqué. Si tu crois que Dieu existe, mais que tu crois que Dieu attend ta performance, que Dieu attend que tu jeûnes 2-3 fois par semaine, que Dieu attend que tu aies au moins lu tes 50 chapitres dans la semaine avant de daigner même ouvrir l'oreille à ta prière, je suis désolé, tu ne connais pas Dieu. Si tu crois que Dieu t'a envoyé la maladie pour t'apprendre quelque chose, je suis désolé, tu ne connais pas Dieu. Si tu crois aujourd'hui que Dieu veut que tu restes malade, je suis désolé, tu ne connais pas Dieu. Hein? La Bible ne dit-elle pas que les démons aussi croient en Dieu? Okay? Et ils tremblent. La dernière fois que j'ai lu, il n'y avait aucun démon qui rentrait au ciel là. Hein? Oh, mais ils croient que Dieu existe. Hein? Ils croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Ils tremblent seulement parce qu'ils croient qu'il y a une force supérieure qui existe quelque part dans le ciel qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas toucher. Non. Ils tremblent parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu puissant qui existe. Hein? Ils tremblent parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu à qui appartient toute l'autorité qui existe. Amen. Oh, c'est pour ça qu'ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui existe à qui rien n'est impossible. C'est pas ça qu'on a chanté tantôt? OK, OK, juste pour être sûr. L'esprit de foi. L'esprit de foi est où? L'esprit de foi, il est de l'autre bord. Il est de l'autre côté. OK? L'esprit de foi est en dehors de la barque. Parce que je le sais, je le vois dans plusieurs de vos yeux, là. Ouh, je vois des films. Je vois des films de qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie. Je vois des films, des choses que le Seigneur vous a déjà dit et sur lesquelles vous êtes en train de méditer. Puis vous vous dites, ouh, est-ce que je vais sauter? N'est-ce pas? Est-ce que c'est à ça que ça s'applique dans ma vie, Seigneur? Je ne sais pas, mais j'oserais dire que oui. Je le vois dans vos yeux. Vous vous dites en ce moment, si j'ai chanté que rien n'est impossible, j'ai plus d'excuses maintenant. Ouch! Tout ce qu'on a fait ce matin, on l'a fait par la foi. On a imposé les mains par la foi. Ceux qui sont avancés par la foi. Okay? Et pourquoi c'est le genre de choses que... Parlons-nous franchement, là. La majorité des gens avec qui je parle, désire ce genre de choses. La majorité des gens à qui je parle désirent voir Dieu agir puissamment, désirent voir des miracles, des signes et des prodiges. Mais la majorité des gens à qui je parle ont peur. Ils sont dans l'incrédulité. Oui, mais si. Oui, mais si on ne traverse pas, on ne le saura jamais. Hein? Si on ne passe pas de l'autre côté, on ne le saura jamais. C'est ce que Dieu désire pour nous. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. En Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il nous dit dans Matthieu 6 que quoi? Grosso modo, que, écoute, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment rien, ils n'amassent rien, mais ils ne manquent jamais de rien. Regardez les lys des champs. Ouh! Il n'y a personne qui a été aussi bien habillé qu'eux. Et après, il nous dit, allô? Pensez-vous pas que vous qui avez été créés, que j'ai créé moi-même personnellement en mon image, pour qui je suis mort, en qui j'ai mis mon esprit, pensez-vous pas que vous êtes plus important pour moi que des oiseaux? Si je prends ainsi soin des oiseaux, ne pensez-vous pas que je vais prendre soin de vous aussi? Mais pourtant, combien de fois ça résonne dans nos cœurs? Pourquoi? Dieu pourquoi? Dieu comment? Dieu quand? Dieu où? Dieu dit, repose-toi en moi. Fais-moi confiance. Parce que celui qui s'approche de lui doit faire quoi? Doit croire qu'il existe dans celui qui pourvoit. La base, déjà, c'est quoi? C'est de croire que Dieu pourvoit. Honnêtement, là, si vous avez la difficulté à croire que Dieu pourvoit pour vos besoins, que selon la Bible, selon Jésus lui-même, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui recherchent. Si vous avez la difficulté à croire Dieu pour vos besoins primaires, naturels, de manger, de boire, de se vêtir, d'avoir un abri, si vous avez la difficulté à croire à Dieu pour ses besoins de base, pour ses besoins que Dieu sait que vous en avez besoin, vous allez avoir la difficulté à recevoir tout le reste. Amen. Comment est-ce que je vais m'approcher d'un papa, d'une maman, que je doute même s'il veut m'acheter un vêtement, si j'ai plus de vêtements, que je doute même si demain matin, il ne va pas me dire, « OK, là, ça fait assez longtemps que tu es sur mon toit, va-t'en. » Comment, à ce moment-là, je vais m'approcher d'un parent comme ça avec foi? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je rentre à la maison, est-ce que je vais manger ce soir? Ou j'espère que mon papa n'a pas enlevé mon lit dans ma chambre? C'est un peu stressant comme vie pour l'enfant, n'est-ce pas? Mais il y a des enfants de Dieu qui vivent comme ça. J'espère que j'ai été assez gentil aujourd'hui pour garder mon salut au moins une autre journée. Aïe, aïe, oui. OK? Oh. Avec ce genre de mentalité, mes amis, on se demande où est Dieu. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est nous-mêmes qui le bloquons. Amen? Parce que celui qui croit doit croire qu'il existe, mais il doit croire aussi qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense celui qu'il cherche, celui qui va prier, celui qui vient devant lui. Mais comment est-ce que je vais aller prier avec foi? Jacques nous dit quoi? Jacques nous dit, écoute, celui qui demande en doutant, sans foi, qui ne s'attend même pas à recevoir quelque chose. Mais nous, on est là, on croit en Dieu, qu'il existe, et même on a des besoins dans nos vies, on vient devant lui, on prie avec soi-disant foi, mais en même temps, on se demande en arrière, Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est encore fâché contre moi? Est-ce que j'ai encore beaucoup de péchés que j'ai pas confessés? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que dans le fond, peut-être je prie pour être guéri, mais peut-être que Dieu veut pas que je sois guéri. Peut-être que Dieu, il veut attendre encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines, années, voire siècles, pour dire, oui, il va être glorifié. Là. Non. S'il vous plaît, c'est épuisant. Là. Je suis épuisé juste à dire ça. Celui qui doit s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Mais qu'il existe dans qui il est. En Dieu, tout-puissant. Amen. Pas un Dieu lointain, incapable de faire quoi que ce soit, et qu'on chante « Rien n'est impossible, rien n'est impossible, oh, j'espère, rien n'est impossible, oh, j'espère. » Rien n'est impossible sauf votre situation. Qu'est-ce que vous avez de plus spécial que les autres? Qu'est-ce que vous avez fait de pire que les autres? Qu'est-ce que vous avez de tellement spécial, vous, que l'ennemi, lui, il ne veut pas vous lâcher? Même si Dieu dit, lâche-le, mais vous, vous êtes un cas particulier, l'ennemi dit, non, lui, je ne le lâche pas. Et Dieu dit, ah, lui, ah, oh, c'est vrai. Non. Il faut apprendre à connaître Dieu. Mais tu sais, ça c'est des choses qu'on entend depuis le début de notre vie chrétienne. Connais Dieu, lis ta parole, prie. Mais connais Dieu, qui il est, comment il agit. Vous savez, quand vous êtes rendu dans un couple où vous vous regardez et vous savez ce que l'autre pense, n'est-ce pas? Vous êtes rendu à une place où, écoute, il y a des choses que je demande même pas à ma femme. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle va dire non. Hey, pourquoi je vais me fatiguer de demander des choses que je sais qu'elle va dire non? Mais parce que je la connais. Ah, je vais essayer d'un coup que, ben non. Mais de l'autre côté, il y a des choses que j'hésite pas à lui demander parce que je le sais qu'elle va dire oui. Amen. Mais c'est pareil avec mes parents. Il y avait des choses que, écoute, non seulement tu te demandes pas, mais il y avait des choses qu'on dirait que, écoute, tu penses même pas. Dès que ça te vient en tête, ouf, non, il faut que tu l'enlèves là. Au cas où mon père a appris que j'ai pensé ça, ouf. Encore moins lui demander. Pourquoi? Parce que je le connais. Des amis venaient me voir, ils disaient, écoute, tu peux venir faire ça, on s'en va à telle place. Est-ce que tu peux? Non. Ben, tu peux pas demander à tes parents? Oh, non. Ben, essaye au moins. Ah, c'est déjà fait dans ma tête. Et j'ai déjà eu la réponse dans ma tête. J'ai déjà vu mon père. OK. Mais Dieu, on ne sait jamais, on dirait. Hein? On peut être certain de la volonté de Dieu, mais peut-être que dans cette circonstance-là, il y a quelque chose d'autre qu'on ne voit pas, qui est spirituel. Et que dans le fond, oui, c'est toujours la volonté de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Après ça, essayez de marcher dans la foi. Essayez de marcher dans la foi. Essayez d'avoir confiance en Dieu. Essayez, je vous dis, d'aller prier, de demander quelque chose avec autorité et de vous le relever sans vous demander si vous avez dit les bonnes paroles. Sans vous demander si vous avez pris les bons versets pour prier. sans vous demander si dans le fond vous ne devriez pas appeler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes de plus pour prier la même prière pour vous que vous, juste au cas où Dieu, vous n'avez pas entendu. Il faut connaître notre papa. Là. On le dit haut et fort, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais combien d'entre nous sommes vraiment dans cette relation? Jésus a dit à Philippe, il dit, vous voyez le Père, vous avez vu le Fils. Philippe dit, oh Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, ça fait tellement longtemps, ça fait aussi longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas encore. Et j'ose dire aujourd'hui qu'il y en a tellement que ça fait longtemps que nous sommes nés de nouveau, mais malheureusement, nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Et entendez-moi bien encore une fois, je ne le dis pas avec condamnation, je ne le dis pas avec jugement. Okay? Mais je le dis avec une connotation d'urgence dans le sens de... Il faut le connaître. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est qu'il te connaisse. Pourquoi? Parce que quand je connais Dieu, quand je connais qui il est, quand je connais comment il agit, j'ai vraiment cette foi-là, cette assurance-là, et j'ai cette vie éternelle. Et parce qu'encore une fois, qu'il te connaisse, c'est, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Mais on a arrêté la vie éternelle dans « après que je meurs ». J'ai connu Dieu, j'ai accepté le Christ, donc j'ai la vie éternelle. C'est-à-dire, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Oh, mes amis, la vie éternelle commence aujourd'hui sur terre. Amen. La vie abondante de Jésus-Christ ne va pas agir dans notre vie seulement lorsqu'on va quitter notre corps physique, mais la vie éternelle, la vie abondante de notre berger qui a dit, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance, amen. Cette abondance, c'est quoi? C'est cette abondance de joie, cette abondance de paix, cette abondance dans la prospérité, cette abondance dans la santé, cette abondance aujourd'hui. Ici, Jésus dit, il n'y a personne qui ne va pas quitter maison, famille, femme, enfant pour le royaume et qui ne va pas recevoir au centuple, non seulement après, mais aujourd'hui, dans ce siècle-ci. Donc la vie éternelle, c'est aujourd'hui, maintenant. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu as cette vie éternelle, si tu confesses Dieu, tu as cette vie éternelle, bien sûr, tu es enfant de Dieu, tu vas au ciel, wow, hallelujah. Mais si tu connais Dieu, tu peux bénéficier de la vie éternelle aussi, sur terre. C'est totalement différent. Parce que combien, disons-le, ont déjà un billet pour le ciel, mais vivent l'enfer sur terre? C'est un peu triste, non? Et notre seule espérance, c'est dans le fait que un jour, tout ça va être terminé. Oh. Non, 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 non. Ça, c'est très égoïste, de un. Parce qu'on n'est pas sauvé seulement pour nous aller au ciel. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Okay. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas cette optique-là, cette mentalité-là de dire, je veux être béni, Seigneur. Pas juste parce que tu me le promets dans ma parole, parce que je veux être une source de bénédiction. Okay. On passe à côté. C'est beau les signes des miracles et des prodiges. Mais pourquoi tu veux voir les signes, les miracles et les prodiges? Pourquoi est-ce que tu veux que le Seigneur t'utilise dans les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, ces choses comme ça? Pourquoi? Pour pouvoir montrer aux gens que tu as un don? Ou parce que tu regardes, tu lèves les yeux, tu vois la foule et tu as compassion? Et tu te dis, Seigneur, il y a sûrement quelqu'un à encourager ici ce matin. S'il te plaît, donne-moi une parole, quelque chose pour quelqu'un. Pas pour te sentir mieux, parce qu'enfin, Jésus t'utilise, là. Parce qu'enfin, tu sers à quelque chose dans le royaume. Non. Parce que tu sais que le jour où Jésus a dit « Tout est accompli », tout était accompli dans ta vie. Tu sais que le jour où il a dit « Tout est accompli », tu avais toute chose. tu avais accès à toutes choses. Que ce qui était avant pour toi n'est plus. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment est-ce qu'on peut penser aux besoins des autres quand on n'est pas encore capable de comprendre la parabole des petits oiseaux et des lys des champs? Comment est-ce qu'on peut penser aux autres quand on passe nos journées à s'inquiéter sur « Est-ce que, Seigneur, tu vas pourvoir pour mes petits besoins, moi, personnels? » C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent pour ces choses-là. Il n'a pas dit ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui ont seulement, ce sont juste eux qui ont besoin de ces choses-là. Non, non, non. Il a dit ce sont ceux qui connaissent pas Dieu. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là, qui s'inquiètent de ces choses-là. Vous en avez besoin autant qu'eux. Mais la différence, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça parce que vous avez un Père dans les cieux qui vous a créé et qui veille sur vous. Grosse différence. Mais comment est-ce que la parole est étouffée dans la parabole du semeur? Comment est-ce que la parole est étouffée? Les soucis de la vie. Hein? Les inquiétudes. C'est ce qui étouffe la parole. C'est ce qui étouffe la semence. La semence de foi qui est appelée à produire dans votre vie. Mais l'inquiétude, les soucis et les recherches des richesses de ce monde. Les gens aussi, je veux avoir ça. Pour être, avoir du succès dans ce monde, il faut avoir ci, je veux avoir ça. Pourtant, la Bible nous dit que celui qui cherche à s'enrichir tombe dans un piège. Mais tu sais, si je me dis que je ne suis pas ici par hasard, que c'est Dieu qui m'a créé, que comme nous dit Éphésiens 2.10, il m'a créé, pourquoi? Pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. À ce moment-là, est-ce que c'est à moi de pourvoir pour ce que j'ai besoin? Ben non. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a établi. Maintenant, hey, si tu veux que je le fasse, il faut que tu me donnes qu'est-ce que j'ai besoin. Quand vous arrivez à un nouvel emploi, là, est-ce qu'on vous met tout simplement là puis on dit « go au travail » Un minimum de formation. Et si tu as besoin d'outils, on va te donner les outils. N'est-ce pas? L'employeur, il dit pas « wow, tu as un CV merveilleux, tu as beaucoup d'expérience, mais écoute, voici tout ce que tu dois acheter. Quand tu auras tout acheté ça, là, tu pourras revenir. » Puis ça te coûte pour 2, 3, 4, 5 000 $ d'équipement pour pouvoir commencer à travailler. Écoute, quand je travaillais à la base militaire comme instructeur, quand tu arrives, qu'est-ce qu'ils font? Notre uniforme était fourni, là. Mon uniforme était fourni, j'avais de l'argent pour aller m'acheter des souliers, des running shoes. Pourquoi? Parce que ça faisait carrément partie de mon outil de travail. Tout ce dont j'avais besoin pour travailler, je l'avais. Les installations, les vêtements, tout. Tous les outils pour travailler, c'est là. Et j'ose croire que dans la majorité des travails, c'est comme ça aussi. Hein? Et Jésus a dit quelque chose un jour. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et la parole de Dieu nous dit quoi? Nous dit que nous sommes gérants des grâces de Dieu. Le gérant, c'est quoi? Le gérant, normalement, c'est pas le propriétaire de l'entreprise. N'est-ce pas? Mais le gérant, c'est celui que le propriétaire fait confiance pour faire en sorte que son entreprise fonctionne. Pour justement gérer. Donc, le gérant, si lui manque quelque chose pour bien faire son travail, va dire au propriétaire, écoute, tu me demandes de faire telle chose, mais voici, j'ai besoin de ci, sinon je ne peux pas. Et nous sommes les gérants, les administrateurs des dons de Dieu. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Okay. Donc, en tant qu'administrateur des dons de Dieu, des grâces de Dieu. Si on doit s'occuper des affaires de Dieu, ayons confiance que Dieu va nous donner ce qu'il faut pour nous occuper convenablement de ses affaires. Amen. Wow. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et chercher C'est pas comme mes enfants qui disent est-ce que papa, est-ce que tu as vu ma voiture jaune? J'ai dit non, c'est toi qui joues avec, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il dit cherche-la. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit cherche-la. Mais j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. OK? Dans chercher, il y a une connotation un peu plus agressive. Chercher dans le désir intense de trouver. OK? C'est comme Jésus qui donne cette parabole du royaume des cieux, que la femme qui perd une pièce dans la maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Écoute, elle va virer la maison à l'envers, elle n'arrêtera pas tant si longtemps qu'elle n'aura pas retrouvé cette pièce. Et c'est avec assurance qu'on peut chercher. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui cherche fait quoi? Celui qui cherche? Donc aujourd'hui, la question c'est, quelle parole vous voulez croire? Quelle parole vous voulez croire? Vous voulez croire la parole de Dieu qui dit celui qui cherche trouve? Ou croire la parole qui s'installe à travers tout ce que le monde veut nous envoyer comme information qui dit tu n'y arriveras jamais? Et c'est là, mes amis, qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que vous regardez, il faut faire attention à ce que vous écoutez. Parce que le combat de la foi est où? Le combat de la foi, il se trouve entre les deux oreilles. Le combat de la foi, c'est de gagner le combat de nos pensées. Parce que ce que tu vas croire ultimement, tu vas le déclarer. Et ce que tu vas déclarer ultimement, tu vas le produire. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui influence nos pensées? Ce qui influence nos pensées, c'est toutes les informations qu'on laisse venir dans nos pensées. C'est-à-dire toutes les nouvelles ou quoi que ce soit, les émissions que tu peux regarder à la télé. Toute la musique que tu peux écouter. Il y a des études qui sont catégoriques, qui montrent clairement que les jeux vidéo à notre connotation violente, que la musique d'aujourd'hui a une influence très négative sur les jeunes. Et ça, la conclusion de cette étude-là, c'est pas « tournez-vous vers Dieu », là. C'est des gens très terre-à-terre scientifiques qui sont arrivés à cette conclusion-là. Hey! Qu'à force d'écouter, disons-le, de la cochonnerie, c'est de la semence. Et quand tu veux prier dans la foi, tu as la parole de Dieu, mais en même temps, tu as le film des 10 émissions que tu as écoutées cette semaine de tout le monde qui est mort du cancer. Mais peut-être que pour toi, ça va être différent. J'espère. OK? Est-ce que la télé, c'est mal? Non. Mais il faut être plus sage dans qu'est-ce qu'on écoute. Il faut être plus sage dans qu'est-ce qu'on écoute. Encore une fois, d'un côté, on veut amener la foi, mais de l'autre côté, on laisse entrer l'incrédulité. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est tellement habitué de le regarder que ça devient quoi? Oh, naturel. Mais c'est la foi qui est supposée d'être naturelle pour nous. OK? C'est très important, ça. Et mettez, garde la parole de Dieu, garde dans ta bouche, mais aussi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos des yeux? De ne pas laisser n'importe quoi... devant mes yeux, psaume 119, 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Je ne mettrai rien, psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Ça, c'est, je viens de lire la Bible, la parole de Dieu, celui qu'on croit qui existe. Et celui qu'on croit qui ne gaspille aucune parole. Mettez pas n'importe quoi devant vos yeux. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu devrait venir de la parole de Christ. Mais ce que vous allez entendre va créer la foi chez vous. Je vous dis. Ce que vous entendez, ce dont vous vous nourrissez, c'est ce que vous allez finir par croire. Mais là, à un moment donné, on a un petit regain de foi et on essaie de combattre contre tout ça. Waouh, c'est épuisant. Pas étonnant qu'on baisse la garde. Et si tu trouves une émission qui a de l'allure? Mais des fois, juste les annonces n'ont pas de bon sens. Non, c'est vrai. Je me retrouve à changer de poste constamment pendant les annonces. Puis tu regardes une émission bien correcte pour les enfants. Puis boum, entre deux, pendant les annonces, c'est les gens à moitié nus. OK. Il faut que la parole soit concrète, soit vraie dans nos vies. Et il faut être capable de se dire ces choses-là. On vient épuisé, fatigué du travail, c'est facile de déconnecter en regardant la télé. Et là, on met ça sur off, on met ça sur on, et qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, on est en train de faire quoi? De se recharger. Tu es épuisé, tu reviens du travail, je me recharge sur la télévision. Fait que c'est quoi qui va te recharger? Les 10 émissions de tout le monde qui trompe tout le monde, qui couche avec tout le monde, puis que c'est full normal? Puis que tu as tellement hâte de revenir à la maison, puis de voir demain c'est qui finalement qui va avoir couché avec qui? C'est tellement édifiant ça! C'est moins le fun à entendre, je sais. Mais l'esprit de foi, il se développe quand on bloque l'esprit d'incrédulité. Puis l'esprit d'incrédulité vient comment? Quand on laisse rentrer des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. OK? Je vais vous laisser méditer là-dessus. Wow, wow, wow. J'appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît. Amenez devant. Parce qu'on veut développer un esprit de foi, là. On veut développer un esprit qui chante « Oui, je crois », qui chante « Rien n'est impossible à toi », pas seulement le dimanche matin entre 10h et midi. Mais que vous allez être capable de chanter avec autant de foi, justement, et d'autorité le lundi, le mardi ou tout le reste de la semaine. C'est ce genre d'esprit de foi qu'on veut développer. Un esprit de foi qui a le réflexe davantage de se dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit plutôt que qu'est-ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les autres vont penser. Ou qui est-ce que je connais ou dans mon entourage qui a vécu telle chose, qu'est-ce qui est arrivé? Ça peut être, c'est pas mauvais. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi? Vous êtes en train de passer à travers une situation, vous connaissez quelqu'un qui a passé à travers la même situation, malheureusement, le dénouement a été négatif, donc qu'est-ce qu'on fait? On panique. Et on s'alimente de plein de mauvaises nouvelles, tout en essayant de garder la foi. On va lire les statistiques. Seulement 10% des gens s'en sortent vivants. Après, on veut venir ici. Ah. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, va ressusciter mon corps physique. On fait 2 pas, on en recule 3. On met un orteil dans l'eau, on rembarque dans le bateau. Ouh. C'est ça. Ce que vous ressentez en ce moment, cette fébrilité et crainte, oui, mais c'est ça, oser marcher par la foi. OK? C'est ça. C'est comme on dit quoi? On dit, écoute, allez par la foi, c'est pas parce qu'il n'y a plus aucune crainte, là. C'est pas parce que vous avez tout compris à 100%. C'est juste parce qu'un jour, vous avez décidé, j'y vais. C'est parce qu'un jour, vous avez décidé, je passe de l'autre bord, sinon je meurs. Wow. Je sais que je serais bien que je ne sois pas le seul qui désire ça. Et je l'ai vu dans vos regards. Que des choses pour lesquelles vous croyez, mais il y a des choses pour lesquelles vous n'osez pas croire. Et ça, c'est des mensonges. Et vous n'osez pas croire à ces choses-là, pas parce que... Et c'est ça qui est paradoxal. C'est pas nécessairement dans votre cœur que vous ne croyez pas Dieu. Parce que si je parle avec vous ce matin, je vais vous poser la question, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Vous allez me répondre oui, je le sais. Mais pour une autre raison, vous n'arrivez pas à y croire. Pourquoi ça pourrait se faire pour les autres, mais pas pour vous? Amen. Pourquoi c'est vrai dans la parole, puis on y croit, puis on va la prêcher, puis on n'osera jamais dire le contraire? Mais pourquoi, lorsque vient le temps que ça prenne vie, justement, dans nos vies, hein, il y a tout un océan, il y a toute une mer entre ça. Et c'est là que le Seigneur nous appelle. C'est là que le Seigneur nous appelle en tant qu'enfants de Dieu, c'est là qu'il nous appelle en tant qu'Église, parce que c'est la seule manière, mes amis, où on va témoigner aux gens que Dieu est vraiment parmi nous. Si on s'inquiète des mêmes choses que tout le monde à l'extérieur s'inquiète, où est le témoignage? Si je vais crier, si je vais pleurer pour les mêmes choses que toutes les autres personnes pleurent, où est le témoignage? Si je recherche les mêmes choses que tout le monde recherche, où est le témoignage? Si mon Dieu, à moi, en qui j'ai cru, n'est pas capable de faire les choses que les autres sont même pas capables de faire, à quoi bon servir Dieu? À quoi bon venir à l'église, mes amis? Mais j'ai cru. Parce que sans ça, là, mon juste vivra. Mon juste vivra. Mon juste vivra par la foi. Donc, si on marche pas par la foi, oui, gloire à Dieu, on est né de nouveau. Oui, gloire à Dieu, on a confessé le Seigneur comme notre sauveur, comme notre maître. Gloire à Dieu, on va au ciel. Amen. Mais comme j'ai dit, c'est pas tout. Il y a ici, là. Il y a ici, il y a cette vie, il y a cette durée pendant laquelle nous sommes ici des étrangers, des voyageurs. Et nous avons quelque chose à faire pendant cette période-là. Mais pour être capable de faire ce qu'on a à faire, il faut d'abord recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous. Tout ce que le Seigneur a dit de nous. Comment est-ce qu'on veut connaître la volonté de quelqu'un? On a ici ce qu'on appelle un Nouveau Testament. Et la Bible nous dit qu'un testament est valide seulement quand? Est seulement valide lorsque le testataire est mort. Et Jésus-Christ est mort. Donc, ce qui est dans le Nouveau Testament est valide maintenant pour nous aujourd'hui. Et scellé par le sang de Jésus. Donc, si je veux comprendre, pardon, et connaître ce qui m'appartient, je lis le testament. Et parce que c'est écrit, je dis, hey, c'est ton testament, tu es mort, scellé par ton sang, tu n'es pas un homme pour mentir, je crois à ta parole, je m'approche de toi, je crois que tu existes, je crois que tu vas me récompenser parce que je te cherche, tu t'occupes des oiseaux, tu t'occupes des lys des champs, tu t'occupes de tout ce qui va brûler, alléluia, un jour, mais moi, je suis créé en ton image, je suis créé avec ton esprit, tu as des beaux plans, des beaux projet pour moi, comment est-ce que tu vas m'abandonner? Amen. Comment est-ce que tu vas me rejeter? Comment est-ce que tu vas pas me parler? Comment est-ce que tu vas pas répondre à ma prière? Comment est-ce que tout ce que j'ai besoin pour accomplir ton œuvre, tu vas pas me le donner? Mes amis, il y a un jour, et je pense que le temps approche, où il faut, en tant qu'Église, passer de l'autre bord. Où il faut, en tant qu'Église, alléluia, développer cet esprit de foi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on est? Sinon, on est tout simplement un groupe qui se réunit de temps en temps pour prier. Un Dieu qui est là quelque part, puis que des fois il fait des choses, mais on ne sait jamais pourquoi vraiment il fait, puis pourquoi jamais il ne fait pas des fois. Puis après, on veut prier pour que les gens viennent à l'église. Mais dans
nos propres vies, on n'est même pas capable de prendre ces choses-là en application. Fait que viens à l'église, on va fleurir ensemble, on va prier ensemble, on va essayer de comprendre un Dieu que personne ne comprend. Ah oui, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Avec compassion, c'est ça la compassion. Mais pas pleurer parce que je suis à genoux pensant que tout va s'écrouler dans ma vie, là. Je suis bâti sur le roc. Si je suis bâti sur le roc, il n'y a rien qui va s'écrouler dans ma vie. Quand est-ce que le jour où on y croit? Quand est-ce que le « Amen » que l'on répond devient un « Ainsi soit-il » ? Ça a toujours été la volonté de Dieu. D'avoir un peuple mis à part, à travers lequel il va manifester sa gloire. Avoir la mort qui traverse un pays entier. Mais une seule région, une seule partie qui est épargnée. Avoir un peuple qui, contre toute attente, contre toute explication, que ce soit l'économie, la science, la politique, il n'y a rien qui peut expliquer pourquoi ce peuple-là, malgré une crise économique, comment ça, eux? Non seulement ils se réunissent, non seulement ils continuent, ils ont ce qu'il faut, mais en plus... Ils prospèrent pendant la crise économique. Comment est-ce qu'Abraham, Isaac, Amen, comment est-ce qu'ils ont prospéré? Alors même qu'on essayait de les voler, on essayait de leur enlever, mais Dieu leur a donné davantage. Ils ont semé et récolté dans le désert, allô? Ils ont semé et mangé des fruits là où il n'est pas supposé de pousser de fruits. Il y a des gens qui ont été nourris par des corbeaux. Ils ont bu de l'eau d'un rocher. Il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Quelqu'un a déjà vu ça? C'est les belles histoires qu'on veut raconter à nos enfants. C'est les belles histoires où on veut que nos enfants grandissent dans la foi. Mais lorsqu'on est rendu grand, il y a toujours un « Ah, oui, c'est vrai, David, ben oui, David a tué Goliath, mais tu sais, hein, quand tu es adulte, c'est pas pareil, mon ami. » Oui, parce que quand tu es adulte, là, tu as beaucoup trop d'inquiétudes. Tu réfléchis beaucoup trop. Tu as laissé beaucoup trop la vie rentrer des incrédulités, des mauvaises herbes, des mauvaises pensées dans ta vie. Pourquoi Jésus dit que celui qui vient à moi va entrer dans le royaume comme un enfant? C'est à cause de ça. La foi d'un enfant. Le oui, tu le dis, papa, oui, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, sont prêts à croire aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Il nous attend infiniment, au-delà, alléluia, amen, de tout ce que vous avez même pu oser penser, imaginer. Oh, Korya Santo Robo Sherevan, Korya Sitayan, Korya Santo. Et on parle de foi ce matin, évidemment, là. Ah, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, on veut venir devant toi, Seigneur, avec foi. Alléluia. Oh, on veut venir devant toi, Seigneur, avec foi. Nous croyons que tu existes, Seigneur. Oh, nous croyons que tu existes. Oh, que tu existes non seulement là-haut dans le ciel, alléluia, mais que tu existes dans nos vies aujourd'hui, maintenant. Que tu existes dans tout ton amour, que tu existes dans toute ta miséricorde, que tu existes dans toute ta bonté, tu existes dans toute ta fidélité. Et comme Sarah, en Hébreux 11, verset 11, on veut croire à la fidélité, alléluia, à la fidélité de celui qui fait la promesse, alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, on veut s'engager à être un peuple, oh, qui marche par la foi, à être un peuple qui vit par la foi. Oh, Seigneur, oui, on désire toutes les bénédictions que tu nous as données, Seigneur. Pourquoi? Oh, alléluia, pour être à notre tour une source de bénédiction, pour qu'il y ait davantage de gens qui puissent goûter, alléluia, à la joie, oh, que nous goûtons en tant qu'enfants de Dieu. Oh Seigneur, puisse tes promesses, puisse tes bénédictions devenir réalité dans nos vies, Seigneur. Je te prie ce matin pour un esprit d'audace, alléluia, un esprit d'assurance, un esprit d'autorité dans ton église, Seigneur, que tu encourages toi-même, tu guides toi-même ceux ici ce matin qui ont ce désir d'aller de l'autre bord, qui ont ce désir, Seigneur, de marcher par la foi, qui ont ce désir, Seigneur, de saisir tes promesses, alléluia. Et peu importe ce que nos pensées peuvent nous dire, peu importe ce que les nouvelles peuvent rapporter, peu importe ce que le monde peut nous dire, Seigneur, on veut brandir très haut, alléluia, l'épée de ta parole, alléluia, et dire, il est écrit, alléluia, et il en sera ainsi dans ma vie, le Seigneur l'a déclaré, et ainsi soit-il. Merci, Seigneur Jésus, que s'élève, oui, une église qui marche dans la foi, une église, alléluia, qui brûle de ton feu, une église qui brûle de ton amour, une église, Seigneur, qui est un témoignage pour les gens autour, une église qui marche dans un amour que le monde ne connaît pas, une église qui marche dans une prospérité que le monde ne connaît pas, une église qui marche dans la santé divine que le monde ne connaît pas, une église, alléluia, qui est bénie au-delà de toute compréhension dans le monde, alléluia. Oui, merci Seigneur, que nous ne cachons plus notre lampe, mais que nous nous hissons haut, alléluia, sur la colline, Seigneur Dieu. Coria sita chere baba. Coria baba santoro.
Ce matin, je veux faire cet appel. On ne peut pas se laisser sans faire cet appel. On s'exhorte tous à avancer, marcher, vivre par la foi. Mais le premier pas, on l'a vu en Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Premier pas, c'est ça ce matin. Et je veux donner l'opportunité à ceux qui sont ici ce matin et que vous voulez dire oui, je crois que Dieu existe. L'opportunité, parce que le premier, alléluia, oh, le premier effet de ça, c'est quoi? La Bible nous dit, c'est le salut. C'est la nouvelle naissance. C'est d'avoir cette assurance d'être une nouvelle créature, d'être né de nouveau, c'est-à-dire d'être sauvé, d'être pardonné de nos péchés et être créé de nouveau et avoir l'éternité avec Christ. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la chose la plus importante, la décision la plus importante que vous pouvez prendre dans une vie, c'est de décider, parce que c'est votre décision, de décider de devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, c'est quoi? Il faut, oui, croire que Dieu existe. Il faut croire, oui, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour prendre notre place, pour porter nos péchés, pour mourir pour nous à la croix. Il faut croire qu'il a été enterré avec nos péchés et croire que le troisième jour, il est ressuscité des morts et qu'aujourd'hui, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, aujourd'hui, toutes les choses qu'il est allé acheter à la croix sont les nôtres aujourd'hui, mes amis. Donc, si vous êtes là ce matin, que vous n'avez jamais dit oui, que vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre maître, comme votre sauveur, que vous n'avez jamais dit, Seigneur, oui, prends ma vie, alléluia, votre opportunité est là ce matin. Très simple, je vais tout simplement compter jusqu'à trois, et à trois, si c'est vous, oh, par la foi, levez la main. Levez la main en signe de foi, levez la main en signe de oui, et on va prier ensemble ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus pour la première fois ce matin? Juste levez la main. 1, 2, 3. Si vous êtes là, si c'est vous. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Oh, gloria santo, robo shere baba santo. Alléluia. Gloria va santo, robo shere baba, yanto robo shere baba. Oh, alléluia, Seigneur. Kundiri andro bo shere baba yando,
Merci Seigneur. Oh, sois loué. Sois loué. Oui, nous te louons. Oui, nous t'adorons.
Alléluia, alléluia. Je crois que il y a déjà beaucoup à méditer ce matin. Amen. N'oubliez pas les trois témoins. La louange qui nous exhorte sur la foi. La parole de notre frère qui nous amène à agir par la foi. Et maintenant, la parole de la foi, justement, qui est semée en nous. Et c'est à nous d'agir, c'est à nous de prendre cette parole-là, retourner à la maison, amener ça devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit, et demander de lui de vous éclairer, de vous guider, de vous diriger. Il y a le pasteur Ken Taylor. Amen. Je m'excuse, j'ai oublié d'avoir envoyé un petit mot ce matin qui vous salue, qui vous exhorte. Rapidement. Bon matin, pasteur Mafou et toute la famille de la vie comblée. Juste un petit mot pour vous dire que vous êtes dans mes prières et mes pensées. Nous venons de passer une semaine chargée et puissante en Oklahoma, la maison mère du Centre Formation Biblique Réma. Ce matin, je prêche dans une église en Arkansas où je vais partager notre vision pour le Québec, la francophonie. Je sais que vous allez avoir une réunion marquée par la présence de Dieu ce matin. Amen. Alors ouvrez votre cœur à ce que l'Esprit veut communiquer ce matin à travers le message. Le meilleur est à venir, c'est le temps de passer de l'autre bord. Hein? Fait que, soyez bénis, si vous n'avez pas eu le temps de remplir les cartes bien branchées pour les cours des LVC.